Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 6h à Alger, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal avec Andréane Mélard. Bonjour Andréane.
Bonjour Arnaud, bonjour tout le monde.
L'Algérie à la une et la victoire annoncée d'Abdelmadjid Tebboune à la présidentielle.
Selon l'autorité électorale, le chef de l'État sortant l'emporte avec près de 95% des voix. Aucune mention toutefois du taux de participation comptabilisé le jour du vote est très attendu par le camp présidentiel notamment. La fin des Jeux paralympiques à Paris, une cérémonie de clôture hier soir sur laquelle on va largement revenir dans journal, le Stade de France transformé en discothèque et la capitale française saluée par le président du Comité international paralympique, Andrew Parsons.
Nous avons tous la responsabilité collective de profiter de l'élan des Jeux paralympiques de Paris 2024 pour rendre ce monde plus inclusif.
Et la fin des Jeux paralympiques, c'est aussi bien sûr le bilan sportif de 2 semaines d'épreuves. Outre la suprématie chinoise, que retenir de la performance française? On va y revenir avec Christophe Diremzian. On va aussi parler de l'Ukraine et des incendies ravageurs en Bolivie.
En Algérie, des chiffres qualifiés de mascarade par le parti islamiste.
Un parti dont le candidat a été crédité d'un peu plus de 3%, 2% pour l'autre candidat de l'opposition qui fait face à l'écrasant 94,65% emporté par Abdelmadjid Tebboune à la présidentielle de ce samedi en Algérie. Des chiffres qui accordent donc la victoire aux dirigeants sortants et de loin et qui ont été annoncés hier soir par le président de l'autorité nationale indépendante des élections, des chiffres qui ne font toutefois pas état du taux de participation très attendu pour conforter la victoire d'Abdelmadjid Tebboune. Faisal Metaoui est notre correspondant à Alger.
Abdelmadjid Tebboune va poursuivre la direction de l'Algérie pendant 5 ans. Ce deuxième mandat sera économique, assure ses partisans. Tebboune a promis d'augmenter le PIB et le volume des investissements dans le pays. Ses deux concurrents, qui ont beaucoup parlé des questions économiques durant la campagne électorale, n'ont pas caché leur colère après l'annonce des résultats officiels du vote. Ahmed Sadok, directeur de campagne du candidat islamiste du mouvement de la société pour la paix MSP, a contesté les chiffres avancés par l'autorité nationale indépendante des élections ANI, une autorité critiquée pour ne pas avoir annoncé le taux final de participation au vote et le nombre des bulletins nuls et des bulletins blancs. Jamal Baloul, directeur de campagne du candidat du Front des forces socialistes Youssef Aouchich, a lui aussi évoqué des pressions qui auraient été exercées sur les représentants du candidat dans les bureaux de vote. Des représentants qui, selon lui, n'ont pas pu obtenir les procès-verbaux du dépouillement des bulletins dans certains bureaux alors que la loi l'exige. Faisal Metaoui, Alger, RFI.
Une première réaction internationale hier soir. Emmanuel Macron a adressé ses plus vives félicitations à Abdelmadjid Tebboune. Cette reprise de Johnny Hallyday par la chanteuse française Santa en ouverture de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques. Vivre pour le meilleur, un grand classique français. Une phrase pour résumer les semaines qui viennent de s'écouler à Paris. Une parenthèse d'Olympiade refermée donc hier soir. Les Jeux Olympiques d'abord, les Paralympiques ensuite. Cette fois, ça y est, la flamme est éteinte et le drapeau transmis au suivant, Los Angeles en 2028. Sous une pluie battante, Paris et les 60 000 spectateurs rassemblés dans le Stade de France hier soir ont rendu un dernier hommage aux 4 400 parasportifs qui ont défilé Paris en fête, encore une fois hier, au rythme des artistes qui se sont enchaînés sur scène, Amadou et Mariam, sur du Serge Gainsbourg, Jean-Michel Jarre, Kavinsky, ou encore l'américaine Alice Trocker qui a interprété l'hymne américain.
Et le président de Paris 2024 a célébré un été historique.
Et il restera gravé en nous, a assuré Tony Estanguet. Tanguy lors de cette cérémonie de clôture cet été, où les gens se parlaient cet été, où la France était heureuse. Fin de citation. Paris 2024 a établi une référence pour tous les futurs Jeux paralympiques, a dit de son côté Andrew Parsons, le président du Comité international paralympique.
Rideau sur les Jeux, la lumière s'est définitivement éteinte hier dans les différents lieux de compétition de la capitale.
Le Grand Palais, l'Arena Paris Sud ou encore Paris La Défense, Arena et sa piscine olympique, autant de lieux qui auront vibré pendant plusieurs semaines cet été au rythme des applaudissements à tout rompre et des hymnes qui ont résonné. L'hymne chinois notamment a beaucoup résonné pour ces Paralympiques. La Chine termine première de très loin au classement des médailles avec 220 récompenses au total, dont 94 en or, devant la Grande-Bretagne et les États-Unis. La France, elle, finit 8e avec 75 médailles, dont 19 en or. Un bilan en nette hausse par rapport au dernier Paralympique de Tokyo et qui permet à la France de se rapprocher des meilleures nations historiques du paralympisme. Christophe Diremzian.
20 médailles de plus qu'en 2021, davantage de titres, le paralympisme français a tenu son pari de réintégrer le top 8 mondial. Derrière le résultat, des budgets en hausse et une préparation professionnelle depuis plusieurs années, mais pas de quoi encore tenir tête à deux récents pays hôtes, la Grande-Bretagne et le Brésil, respectivement 2e et 5e du tableau d'honneur, qui profitent déjà d'un effet jeu, selon Claude Onesta, le manager de la haute performance à l'Agence nationale du sport.
Ils bénéficient de tout ce qu'ils ont construit lorsqu'ils ont été pays organisateurs. Et ce nouveau socle sur lequel vous travaillez va continuer, on l'a dit, à produire des pratiquants chez les plus jeunes, chez les gens qui ont des accidents de vie et qui sont adultes. Donc ça veut dire que vous augmentez votre base et vous aurez demain des équipes encore plus performantes.
Passer un cap supplémentaire, c'est rajeunir, féminiser. Mais d'abord, estime Michael Jeremias, le chef de mission des Bleus, faire en sorte que la lumière ne s'éteigne plus sur les parasportifs et leur discipline.
C'est qu'en fait, maintenant, il y a un suivi dans le soutien, mais c'est pas qu'une question d'argent. Juste un moment on ne retourne pas aux oubliettes et que ces athlètes-là, et notamment dans des sports plus confidentiels, ne soient pas abandonnés. Et puis moi, je rêve que les parasports soient enseignés en milieu ordinaire. C'est pas plus con d'apprendre à nos enfants de faire du basket fauteuil que de sauter le plus loin possible dans un bac à sable. Donc moi, je vais être assez occupé dans les semaines qui viennent pour justement s'assurer du service après-vente.
Le milieu paralympique attend désormais du prochain gouvernement des engagements forts pour que Los Angeles 2028 soit encore mieux réussi sur le terrain que Paris 2024.
Christophe Diremzian du service des sports de RFI qui vous aura fait vivre ces Jeux ces dernières semaines. Toutes nos productions sont à retrouver sur notre site RFI.fr.
Et juste devant la France, au tableau des médailles de ces Jeux paralympiques, il y a l'Ukraine.
Et oui, Kiev toujours en guerre contre la Russie. Moscou affirme que ses troupes continuent d'avancer dans l'est de l'Ukraine, aidées de multiples frappes aériennes, et a revendiqué la Russie ce dimanche à la prise d'une localité vers la ville très disputée de Pokrovsk en Ukraine.
Hier, le président de Lettonie a affirmé qu'un drone militaire russe s'était écrasé sur son territoire.
Un fait qui, s'il était confirmé, pourrait avoir de lourdes conséquences. La Lettonie est en effet membre de l'UE, membre de l'OTAN, la Roumanie également. Bucarest a affirmé aussi qu'un drone russe avait pénétré dans son espace aérien hier dans la nuit. Réponse des autorités ukrainiennes, le ministre des Affaires étrangères appelle à pouvoir utiliser la défense aérienne de ses partenaires de l'OTAN pour intercepter les missiles et les drones russes au-dessus de l'Ukraine.
Dans le même temps, le chancelier allemand Olaf Scholz s'appelle à intensifier les efforts diplomatiques pour obtenir la paix en Ukraine.
Olaf Scholz, qui s'exprimait dans une interview de 20 minutes accordée à la chaîne ZDF, il est revenu, le chancelier allemand, sur son entretien de vendredi dernier avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À Berlin, Ludovic Piétenu.
De nouveaux systèmes de défense aérienne livrés dans les prochains mois, ainsi que 12 chars. Avec ces annonces faites vendredi, Berlin insiste sur son soutien militaire à l'Ukraine et le chancelier Scholz de préciser aussi longtemps qu'il le faudra. Sauf que le budget pour 2025, sous réserve qu'il soit voté par le Parlement, prévoit de diviser par deux cette aide stratégique, de 8 à 4 milliards d'euros. D'où la nécessité de mettre fin à ce conflit. Après la première conférence sur la paix de juin dernier en Suisse, le temps est venu d'un nouveau sommet.
C'est maintenant le moment de discuter de la manière dont nous pouvons sortir de cette situation de guerre et parvenir à la paix plus rapidement. Il y aura sans aucun doute une autre conférence de paix. Et le président Zelensky et moi sommes d'accord sur le fait qu'elle doit se faire avec la Russie.
C'est un message à Moscou qui avait refusé de participer à la première conférence. C'est un message aussi aux téléspectateurs allemands. Olaf Scholz a entendu le résultat des deux élections régionales qui, il y a une semaine, ont montré dans la partie est de l'Allemagne un rejet croissant du soutien militaire à l'Ukraine. À un an des élections fédérales, si le chancelier veut sauver sa place, une sortie rapide de ce conflit pourrait lui être profitable. Ludovic Piétenu, Berlin, RFI.
Au Maroc, au moins 11 morts et 9 disparus après des inondations qui ont touché le sud-est du pays. Conséquence de pluies torrentielles qui s'abattent depuis vendredi sur des zones normalement arides. Un bilan encore provisoire.
En Bolivie, ce sont des incendies qui ravagent l'est du pays depuis plus de 2 mois.
Au total, ce sont un peu moins de 4 millions d'hectares qui ont été détruits par les flammes. Mais outre les destructions, en résulte une qualité de l'air extrêmement mauvaise dans de nombreuses villes. Face à cela, le gouvernement a déclaré l'urgence nationale. Nils Sabin est à la passe.
Des villes enfumées, des aéroports fermés, faute de visibilité, des autorités locales dépassées par l'ampleur des feux. Cela faisait des jours et des jours que différents acteurs appelaient le gouvernement bolivien à déclarer l'urgence nationale pour lutter plus efficacement contre les incendies. C'est désormais chose faite, mais l'annonce arrive bien tardivement pour la sénatrice d'opposition Cecilia Requena, spécialisée sur les questions d'environnement.
C'est une tragédie sanitaire, environnementale, économique et sociale. Qu'attendait le gouvernement ? Car il est évident que les autres mesures n'étaient pas suffisantes.
En plus de l'urgence nationale, déjà 2 régions se sont déclarées en état de catastrophe naturelle à cause des feux. Et comme l'explique la sénatrice, la saison des incendies est loin d'être terminée.
Nous sommes à peine en septembre, les incendies pourraient continuer jusqu'en décembre, comme l'année dernière. Il n'y avait pas eu de pluie, et cette année il n'y en a pas non plus à cause des incendies. C'est de pire en pire.
L'état d'urgence nationale va faciliter l'arrivée d'aide internationale. Ainsi, 60 pompiers brésiliens sont arrivés hier pour aider à lutter contre les incendies. Ils devraient être rejoints dans les prochains jours par des pompiers français, chiliens et vénézuéliens. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Le candidat de l'opposition vénézuélienne est arrivé hier à Madrid. Edmundo González Urrutia s'est réfugié en Espagne car largement menacé au Venezuela. Conséquence de la réélection contestée de Nicolas Maduro à la tête du pays. Nous continuerons la lutte, a assuré Edmundo González Urrutia hier.
En Irak, le Premier ministre a pris la parole hier à la télévision.
Objectif, réaffirmer sa volonté de poursuivre le travail entrepris à la tête du gouvernement irakien alors que son mandat est secoué depuis plusieurs semaines par un premier scandale depuis son arrivée au pouvoir. Une affaire d'écoute téléphonique impliquant au moins un membre de son cabinet. Marie-Charlotte Roupie.
En direct à la télévision publique irakienne, le premier ministre Mohamed Chiaï Soudani a voulu afficher l'image d'un gouvernement inébranlé par le scandale de l'été. Le mois dernier, 7 personnes ont été arrêtées dans une affaire d'écoute téléphonique qui aurait espionné des parlementaires, dont des membres de la coalition chiite majoritaire au Parlement. Problème pour Mohamed Chiaï Soudani, dans la liste des suspects se trouve l'un de ses conseillers. Le Premier ministre, qui a annoncé diligenter une enquête fin août, n'est pas revenu directement sur l'affaire lors de son discours, mais a évoqué des tentatives répétées de déstabilisation de son gouvernement avant d'affirmer que les personnes utilisant leur position pour faire du chantage ou violer la loi seraient menées devant la justice. Certains observateurs ont déploré un discours qui visait uniquement à redorer le blason du gouvernement. Un remaniement ministériel a été annoncé, mais il a été assujetti à la désignation d'un président du Parlement. Le poste est vacant depuis bientôt 1 an pour cause de blocage politique. Marie-Charlotte Roupie, Bagdad, RFI.
De la musique pour finir ce journal avec le nouvel album du Colombien Yuri Buenaventura. Hugo Casalino l'a écouté pour nous.
Ne me quittez pas, il faut oublier.
S'oublier. 1996, la France entière découvre le chanteur colombien Yuri Buenaventura avec cette reprise de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Il faut dire qu'il arrive dans une France, début des années 90, en pleine mode de la salsa. Les clubs parisiens font tourner une multitude de formations salsa dont bénéficie le jeune Yuri Buenaventura et il va très vite s'imposer comme l'un des meilleurs chanteurs. Grâce à cette reprise, il devient en France le premier salsero à obtenir un disque d'or. Enregistré à New York, Amamé, son nouvel album, rend hommage justement à cette salsa dura qui l'inspire. Une salsa brute née de la rue et des ghettos latinos de la Grande Pomme dans les années 70. Il sera en tournée en 2025, notamment à la Salle Playel à Paris le 8 avril. Premier extrait de ce nouvel album, Aquí Llegamos, un titre que l'on pourrait traduire par On est là et que vous retrouvez dans la playlist RFI.
Si, donde nacido yo.
Hugo Casalino pour terminer ce journal.
Merci André Melara, à tout à l'heure. RFI Matin dans les prochaines minutes, à la une en Asie. Premier bilan de la tournée du pape en Asie Pacifique. On s'arrête sur ses étapes en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Timor oriental. Les unes de la presse française, les journaux disent adieu aux Jeux de Paris. On va aussi écouter des spectateurs des Jeux paralympiques avec Pierre-Olivier. Mais d'abord, ma petite humeur déjà nostalgique. Du lundi, avec la complicité de Jean-Pierre Pellon.
C'est fini les jeux sur RFI, c'est fini les jeux à Paris.
Paris, c'est fini.
Paris, c'est fini, mais on en redemande.
J'ai trouvé que c'était une période enchantée. Enfin, vraiment, les gens étaient très, très heureux de se retrouver, de partager ces moments une fois dans une vie.
La parenthèse est refermée et déjà, la J-ostalgie est là.
Si seulement on pouvait remonter le temps et tout recommencer.
Mais oui, recommençons à crier.
Crier, pleurer, crier. Rire, voilà, tout ce que vous voulez. Oh
si le nouveau Premier ministre veut gagner facilement un peu de popularité, qu'il décrète immédiatement la reprise des Jeux.
Tout était incroyable.
C'est un rêve debout et on n'oubliera jamais.
Rendez-nous les athlètes fous de joie.
La France, elle est magnifique. Notre public, c'est ça notre trésor en fait. C'est génial.
Rendez-nous la ferveur des spectateurs.
Alors pourquoi vous êtes venus ?
Eh bien, on est venus pour ça, pour l'ambiance, pour pas rester dans notre canapé devant la télé, voilà.
Rendez-nous les grosses mascottes ridicules et rigolotes.
Une invitée très spéciale sur ce plateau. Je vous présente Friche qui est avec nous ce matin.
Rendez-nous les métros à l'heure, les policiers bienveillants et les Parisiens qui ne font pas la gueule.
J'ai eu la chance d'aller au stade Tour Eiffel et c'était vraiment incroyable. J'en ai pleuré de joie.
Rendez-nous les touristes qui nous flattent.
Paris a assuré 10 sur 10. C'était si excitant de célébrer l'esprit olympique.
Et rendez-nous Philippe Catherine. Tout bleu.
Tout simplement tout nu.
Tout simplement, on veut rester en mode jeu. À Los Angeles, il est 22h17.
Messieurs, dames, c'est fermé. C'est fermé, fini, stop. Tout doux.
C'est fermé, je suis désolé, fermé. Dehors.
À la une en Asie, votre rendez-vous avec l'actualité asiatique. Aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de la tournée du pape en Asie Pacifique. Après l'Indonésie, François est depuis 3 jours en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La dernière visite papale, elle remontait à 1995 avec Jean-Paul II. On en parle avec notre correspondant dans la région, Grégory Pless. Bonjour Grégory.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Le pape François a célébré hier une messe devant 35 000 personnes dans un stade de la capitale de la Papouasie, Port Moresby. Aujourd'hui, il est dans un village, Vanimo, où il a rencontré des missionnaires argentins.
Oui, absolument. Et il a reçu dans ce petit village situé dans une région assez reculée un accueil très chaleureux. Il faut dire qu'il est arrivé également avec 1 tonne de fret humanitaire ainsi que des jouets pour les enfants de la région. Une visite qui peut surprendre, mais qui répondait en fait à l'invitation formulée il y a déjà 5 ans par 2 compatriotes argentins, les frères Prado, qui, avec d'autres Argentins, gèrent dans cette région une école, mais aussi un refuge pour des jeunes filles qui ont été victimes de violences. Alors, quel sera l'impact de la visite du pape dans ce pays ? Il faut savoir qu'en Papouasie, environ 90% de la population se dit chrétienne, et un quart environ parmi eux se revendique catholique. Alors, le pape a profité de cette visite pour faire passer quelques messages à la population et aux autorités. Il a notamment appelé à l'arrêt des violences tribales qui, ces derniers mois, ont fait des dizaines de morts dans certaines régions du pays. Il a aussi émis le souhait que les populations locales, qui dans leur immense majorité restent très pauvres, tirent davantage bénéfice des très nombreuses ressources naturelles que compte le pays en matière minière, forestière ou encore halieutique. Enfin, cette visite, bien sûr, avait pour but de renforcer la foi et le prestige de l'Église catholique. Il a d'ailleurs déclaré que si la Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouvait très loin de Rome, ses habitants, eux, étaient tout près du cœur de l'Église catholique.
Oui, Grégory, le pape a maintenant quitté la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il est attendu au Timor oriental. De très loin, c'est le pays le plus catholique des 4 qu'il visite au cours de cette tournée. Faut quand même rappeler que certains représentants de l'Église ont été frappés par des scandales sexuels.
Oui, absolument, et pas le moindre d'entre eux. Il s'agissait de l'ancien chef de l'Église catholique au Timor oriental, l'évêque Carlos Felipe Jiménez Bello. Il avait, c'est là tout le paradoxe de cet homme, il avait reçu en 1996 le prix Nobel de la paix. Il est largement considéré comme un héros de l'indépendance. Les catholiques, de manière générale, ont joué un rôle crucial dans cette conquête de l'indépendance vis-à-vis d'une Indonésie qui était alors extrêmement violente. Mais effectivement, le problème de ce monsieur, c'est qu'il a également abusé de jeunes garçons sur une période s'étalant sur plus de 20 ans. Et d'ailleurs, en 2002, il a quitté très rapidement et très abruptement ses fonctions, puis il est parti faire le missionnaire au Mozambique, qui serait désormais établi au Portugal. Le Vatican, de son côté, est au courant de ces affaires. Il a sanctionné l'évêque Jiménez Bello en 2022, mais de façon très discrète. Et donc, ce qui est attendu aujourd'hui par un certain nombre d'observateurs, un certain nombre de catholiques, c'est que le pape s'exprime de façon plus ouverte, plus publique sur ces cas d'abus sexuels qui ont frappé donc de nombreux Timorais et qui ont été causés par des gens d'église.
Merci à vous, Grégory Pless, en direct avec nous, le correspondant dans la région, alors que le pape François est donc en vol pour rejoindre Dili, la capitale du Timor oriental. Il est 7h21 à Paris.
RFI Matin.
Un coup d'œil au titre de la presse française de ce lundi 9 septembre 2024. The End, la fin, l'équipe se rend à l'évidence ce matin. Cette fois, c'est vraiment fini, mais la France a réussi ses Jeux Olympiques et Paralympiques. Que la fête était belle, s'enthousiasme le courrier Picard. Et la Voix du Nord n'aura que de beaux souvenirs. Le Figaro se réjouit aussi d'un été olympique qui s'achève sur un bilan exceptionnel. Féerique paralympique, écrit La Croix ce matin. Un spectaculaire rassembleur. Les Jeux paralympiques qui se sont achevés hier ont permis un coup de projecteur inédit sur les personnes en situation de handicap, se félicite le quotidien catholique qui retient des regards et des sourires dans son éditorial. Et maintenant, demande Libération, est-ce un tremplin vers l'inclusion? Athlètes, encadrement, organisateurs, spectateurs, tous espèrent que l'énergie et la ferveur de la Paralympiade qui s'est achevée ouvriront des perspectives pour les personnes en situation de handicap, dans le sport bien sûr, mais aussi dans la société. C'est dans Libération ce matin. Au moins, nous aurons la fierté en héritage. C'est le grand titre du Parisien qui retient ces Français heureux d'avoir été aussi unis. Comment continuer à être une nation sportive? Sécurité, transport, ce qu'il faut conserver aussi, et ce qu'attendent les champions paralympiques. C'est un été doré qu'il faudra faire fructifier, écrit encore le journal. Les revues de presse à suivre tout au long de la matinée dans RFI Matin, c'est avec Frédéric Couteau. Paris, c'est donc fini. On a vécu hier soir la dernière cérémonie de ces Jeux 2024. La cérémonie de clôture des Jeux paralympiques avec une flamme qui s'est définitivement éteinte sur Paris. L'occasion d'une dernière soirée, c'était sous le signe de la fête au Stade de France. Pierre-Olivier était, lui, dans la fan zone de l'Hôtel de Ville de Paris avec des spectateurs très joyeux, mais déjà un peu nostalgiques.
Ils sont venus prendre une dernière dose d'émotion.
J'ai juste pleuré, mais pleuré comme un fou. Il y avait tellement une grande ferveur. Enfin, c'était iconique. J'ai vraiment kiffé, vraiment.
Une cérémonie de clôture avec 24 DJ qui se transforme en soirée électro.
Malgré la pluie, c'est du bonheur.
Sur le parvis détrempé de l'Hôtel de Ville, ces touristes allemands dansent au milieu de la foule.
C'est la France qui réussit le mieux ces ouvertures et clôtures des Jeux Olympiques. C'était splendide chaque fois.
Magnifique. Oui, c'était vraiment magnifique. La France peut être fière de soi.
Faire la fête comme pour oublier que déjà, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont bel et bien terminés.
On a beaucoup profité. On espère que l'esprit va perdurer dans la joie et la bonne humeur.
Vous y croyez ?
Le côté parisien n'y croit pas du tout, mais le côté français y croit.
Allez, cette cérémonie de clôture, c'est aussi l'occasion de revenir sur les images que les Français retiendront de ces Jeux.
Moi, je dirais la médaille d'or au Cécifoot, parce que ça a fait découvrir un sport hyper impressionnant. Et la ferveur du public, tout en silence, était très belle à voir.
À nous, ce qui nous a marqué, c'est les Paralympiques. Quoi. Parce que les Jeux Olympiques, c'était superbe aussi. Hein. Mais je trouve que les Paras, c'est encore mieux, parce que c'est une sacrée performance. Et on est allé voir le Cécifoot. Je trouve ça génial. Quoi. C'est vrai.
Je pense que quand je suis allée voir une épreuve, la natation aux Jeux Olympiques,
c'était marquant et c'était marchand.
Des souvenirs sportifs inoubliables, mais aussi une ambiance générale qui restera gravée dans les mémoires.
J'ai ressenti que ça a ramené la paix. Les gens ne se connaissaient pas, mais au final de compte, moi, quand j'ai été sur des sites, eh bien, j'ai échangé avec des gens qui parlaient une autre langue, avec des gestes, des signes, et on se comprenait. Et on a partagé des moments forts. Ça m'a manqué parce qu'au final de compte, j'ai l'impression que ça a ramené l'amour.
Même les Parisiens, pourtant quelque peu échaudés par les travaux avant les JO, ne regrettent pas d'être restés à Paris cet été.
On est Parisiens et on est restés. On a hésité. Et franchement, heureusement qu'on est resté.
Un été placé sous le signe de la communion dans l'ensemble de la société.
Notamment les policiers, hein. On a bien vu les policiers souriants et tout. Franchement, ça fait du bien.
Alors forcément, on en redemande encore.
On aimerait que l'ambiance continue à Paris, que les gens aient le sourire, soient détendus, mais tout a une fin.
Et même les meilleures choses, Paris aura fait vibrer au-delà des frontières et passe le relais à Los Angeles dans 4 ans.
Reportage à Paris de Pierre-Olivier. Clap de fin donc pour Paris 2024. Vous retrouvez le tableau des médailles et tout ce qu'il faut retenir des Jeux sur RFI.fr. Vous pourrez même revivre la magie de la cérémonie de clôture de ces Jeux paralympiques. (Musique) 7h26 à Paris, c'est l'heure de la musique et du choix des programmateurs musicaux de RFI. Aujourd'hui, Super Jazz Club, c'est un collectif basé à Accra, au Ghana. Voici Lose en playlist RFI ce mois-ci.
Every time it's hitting me like a wave. Sweatless feelings got me acting away. I can't even hide it's all on my face. You give me something I can't explain. High up, taking over me. All your love, what a drug, I'm a goner. High up, taking over me. I'm a goner. Take me away,
one time for the love.
Take me away,
one time for the drugs.
Take me away,
one time for the love.
Take me away,
one time for the drugs.
Hold me close and don't you let go.
One time for the love.
Take me away,
one time for the drugs.
Take me away,
one time for the love.
Hold me close and don't you let go.
One time for the love.
Take me away,
one time for the drugs.
Take me away.
Du groupe Super Jazz Club avec le titre Lose, extrait de leur dernier EP qui est sorti au mois de juin et c'est en playlist RFI ce mois-ci.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
le rôle de la vaccination pour prévenir les maladies infantiles.
Demain,
vos questions sur l'hypertension artérielle et la santé cardiaque.
contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, vous m'en direz des nouvelles avec Jean-François Cadet.
Frapper l'épopée est un roman dense, empreint de réalisme magique. Deux adolescents kanaks, une descendante de bagnards algériens, des activistes qui militent pour l'empathie violente. Alice Zéniter entremêle ses personnages et démêle les fils du passé colonial et de l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie.
Vous m'en direz des nouvelles ? Rendez-vous avec Jean-François Cadet du lundi au vendredi à 15h10 TU.
RFI.